enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et je ne serai jamais plus pareil. Mais je serai changé et transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu. Donc, ce matin, nous allons continuer la série que nous avons commencée il y a déjà 5 semaines. Dieu, qui es-tu? Comment connaître le seul vrai Dieu? Combien de vous êtes contents de connaître Jésus? Il y a un verset dans la parole de Dieu qui est vraiment notre texte clé pour cette série. C'est Jean chapitre 17, verset 3 qui dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Donc, on voit là-dedans déjà qu'il n'y a pas plusieurs dieux, il y a un seul Dieu qui est vrai. Même s'il y a des milliers, même littéralement des millions de dieux qui ont été inventés par les hommes, et toutes sortes de religions, des fausses religions qui ont été inventées, il y a un seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, si on connaît Jésus, si on connaît le seul vrai Dieu, on peut connaître la vie éternelle. Si on ne le connaît pas, on n'a pas la vie. Mais qu'est-ce qu'on a vu à travers les semaines? C'est que Dieu veut se révéler à nous. Il veut qu'on le connaisse. Ce n'est pas un Dieu qui se cache. Ce n'est pas un Dieu qui ne veut pas se faire connaître. Comme le chant de Boum Desjardins qu'on a vu au début de cette série. On voit la sincérité dans les paroles, mais c'est comme il est à la recherche. Et Dieu, où es-tu? Peux-tu m'écouter un peu? Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que Dieu est quelque part caché en arrière du nuage et il n'écoute pas. Et qu'il prend même un genre de plaisir en nous taquinant comme ça. Mais ce n'est pas du tout le Dieu que nous voyons dans la Bible. Le Dieu qu'on voit dans la Bible, c'est un Dieu qui a fait tous les efforts pour qu'on puisse le connaître et le connaître d'une façon intime. Il veut qu'on soit son ami. Il veut qu'on soit en relation avec lui. Et on a vu plusieurs choses. On a parlé du fait qu'on peut connaître sa nature, on peut connaître son nom, et que même le nom de Dieu révèle sa nature et son caractère. On a vu, exemple, que le nom de Dieu, c'est l'Éternel qui nous guérit. On a vu que son nom veut dire littéralement le grand « Je suis ». C'est pas un Dieu qui change du jour au lendemain, mais c'est un Dieu qui reste le même. Hier, aujourd'hui et éternellement, on peut lui faire confiance. Les promesses qu'il a faites sont bonnes pour l'éternité. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Mais aujourd'hui, on va parler, et vraiment notre sujet aujourd'hui, je vais vous montrer une clé, un secret pour mieux connaître Dieu. C'est un secret, mais on dit un secret, mais encore, ce n'est pas une chose qui est cachée. C'est une chose qui est facile à trouver dans la parole de Dieu. Et en fait, aujourd'hui, ça tombe bien, parce que c'est la fête des mères. Et c'est peut-être intéressant, qu'est-ce que je vais dire, mais moi je suis convaincu que plus on peut comprendre et connaître la nature de maman, et mieux on peut comprendre les femmes autour de nous, mieux on va connaître Dieu. C'est quelque chose, hein? C'est comme vous avez entendu l'histoire du gars qui a trouvé, la bouteille, puis la frottée, puis une génie qui est sortie. Il a dit, bon, qu'est-ce que tu veux? Donc, il a demandé 2 choses banales. Donc, bon, il te reste une dernière chose à demander. Hein, qu'est-ce que tu aimerais? Il a dit, ben moi, j'aimerais bien avoir un pont. Peux-tu me faire un pont d'ici jusqu'à Hawaï? Comme ça, je n'aurais pas besoin de prendre l'avion. Je pourrais juste conduire jusqu'à Hawaï pour prendre des belles vacances à la plage. Donc là, il a dit, ah, mais ça c'est compliqué, ça serait pas trop évident. Imaginez tout le béton que ça prendrait, ça serait vraiment un peu compliqué. Est-ce que tu as quelque chose qui serait un peu mauve? Il a dit, bon, mais d'abord, moi, est-ce que tu peux m'aider à comprendre mon épouse? Il a dit, est-ce que tu veux 4 voix ou 2 voix? Des fois, on a l'impression, hey, les personnes, ils parlent souvent, oh, mais les femmes, on ne comprend pas, on ne comprend pas. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est que c'est vrai, les femmes et les hommes sont différents. Et personnellement, je suis content que les hommes et les femmes sont différents. Amen. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que la différence entre les hommes et les femmes, c'est pas juste une différence physique. Il y a une différence dans la façon qu'on pense, la façon qu'on va analyser les choses. Hein, il y a des personnes qui disent que c'est parce que le cerveau de l'homme a été endommagé, mais je suis pas tellement d'accord. Même si c'est vrai que dans le ventre de maman, c'est vrai quand même, qu'au moment donné, il y a quelque chose qui se passe dans le développement du bébé, dans le ventre de sa mère, c'est qu'au moment donné, dans un enfant mâle, il y a comme un bain de testostérone, OK, au niveau du cerveau, c'est vrai. Et que le testostérone, ça va faire comme une ligne, une distinction dans le cerveau, et on voit vraiment, il y a quelque chose qui se passe physiquement dans le cerveau d'un homme qui se passe pas dans le cerveau d'une femme. Et c'est pourquoi souvent les hommes sont plus portés à être un peu plus catégoriques. Ils pensent à une chose à la fois et puis ils sont dans leur petite cave et ils font qu'est-ce qu'ils ont à faire. Tandis qu'une femme est capable de penser à 1000 choses à la fois. Mais c'est vrai. C'est vrai. Mais les hommes, les femmes sont différents. Mais vivent la différence. Donc, en fait, j'ai un couple d'images que je vais partager avec vous dans une minute. Juste imaginez si les femmes avaient encore plus d'influence sur la planète Terre. Si les femmes pourraient faire plus les choses à leur goût. Hein, quel genre de monde est-ce qu'on aurait? Quand on va au salon de qui, par exemple? Qu'est-ce qu'on verrait? Hein? Regarde, oh, mais les regarde. Non, il faut aller en reculant, là. Regarde les belles fleurs. C'est tout bien décoré, hein? C'est... Les femmes, ils ont la touche. Elles sont capables de faire un nid, et c'est joli, c'est agréable, c'est le fun, n'est-ce pas? Et heureusement, parce que le monde est beaucoup plus agréable maintenant, parce que les femmes sont ici. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça, c'est peut-être un peu poussé. Sauf que ça va bien, hein, parce que c'est... regarde où se trouvent les fleurs, c'est pas pire. Hein? On va avoir un meilleur score. Mais puis, si les femmes avaient plus d'influence dans l'informatique, qu'est-ce qu'on pourrait voir sur le marché? Regarde ça, hein? Une souris. Comme ça, elle va rester belle la journée longue, même. C'est... Et heureusement, on est content que, personnellement, je suis content que ma femme prend le temps de toujours être attentionnée. Elle est toujours belle, toujours merveilleuse. Donc, il y a une autre chose. Regardons ceci. Hein. Si, au quinquennerie, si on pourrait avoir quelque... Ça, c'est un marteau et un tournevis. Les femmes sont polyvalentes, hein? Vous savez, c'est quoi? C'est un soulier, hein? Talon haut. Une chose, hein, si tu as besoin de faire un job, une femme est toujours capable de faire la job, hein. Même si elle n'a pas tous les outils nécessaires, elle va trouver un moyen. C'est vrai, hein? Polyvalente, c'est bien. Merci Seigneur pour les mamans. Puis, me semble que, ouais, c'est ça. Si ils avaient quelque chose à dire pour planifier les stationnements dans les centres de commerce, bonne idée, n'est-ce pas? Et juste imaginons pour une minute, si les femmes pourraient avoir leur mot pour les chambres de bain dans les centres de commerce, qu'est-ce qu'on verrait? C'est pas pire, hein? Juste pour vous faire rire un peu. Non, mais pour vrai, on a besoin de voir quelque chose. Il y a un verset en Genèse, chapitre 1, verset 27. Bon, mais avant, non, recule un peu. C'est vrai. Ça, c'est, là, on a vu des choses un peu drôles. Mais voici, regardons qu'est-ce que Victor Hugo a dit. Il a dit, « Oh, l'amour d'une mère, amour que nul n'oublie, tant merveilleux quand Dieu partage et multiplie. Chacun en a sa part et tous l'ont en entier. » Donc, ça, c'est vrai, hein? Mais on a ri, on a vu des choses qui sont drôles, mais quand même, il reste qu'il y a quelque chose dans le cœur d'une femme, dans le cœur d'une mère qui est spécial. Ils ont peut-être quelque chose que nous, les hommes, nous n'avons pas. Et même si je sais que Victor Hugo, c'est pas... Lui, on suit pas sur la théologie de Victor Hugo, ça c'est sûr. Mais quand même, il dit quelque chose là qui est vrai. Dans le cœur d'une femme, dans le cœur d'une mère, il y a des éléments, des caractéristiques qui sont vraiment spéciales et que nous apprécions beaucoup, n'est-ce pas? Regarde, il y a une autre chose ici. Il y a un petit poème que j'ai vu un jeune, je pense, du Québec qui a écrit cela. « Quand je suis sur tes genoux, caché tout près de ton cœur, il fait bien chaud et plus doux qu'au fond d'un nid de bonheur. Et quand sur tes genoux, j'écoute battre ton cœur, j'entends dans ma main, tout doux, chanter le bonheur. » Ça, c'est quelque chose que on voit la tendresse, on voit l'amour d'une mère et on voit l'amour réciproque entre la mère et son enfant. Ça, c'est quelque chose qui est spécial. Vous êtes d'accord? Et c'est une chose que, malheureusement, c'est pas tout le monde qui a pu vivre cela. C'est comme quand on parle des parents, il y a des personnes qui ont eu des bonnes relations avec leur père, il y a des personnes qui ont eu des relations comme ci, comme ça avec leur père. Même chose avec les mères. Mais dans un monde idéal, on sait que Dieu a créé la femme avec une capacité énorme pour prendre soin de ses enfants, n'est-ce pas? C'est quelque chose de merveilleux. Et c'est vraiment quelque chose... Moi, j'ai pas beaucoup de patience avec des personnes qui vont dénigrer les femmes ou qui vont avoir l'impression que, écoute, les hommes, ils font vraiment des choses importantes. Ils vont aller travailler. Aujourd'hui, la plupart des femmes sont obligées même d'aller travailler sur le marché du travail. Mais il y avait une époque où les femmes restaient plus à la maison pour faire une œuvre à la maison. Et pendant longtemps, des femmes ont été comme dénigrées dans ce scope. Les hommes font quelque chose d'important, mais les femmes, bon, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne travaillent pas, ils sont juste à la maison avec les enfants. Ha! Ils travaillent beaucoup plus fort que la plupart des hommes. En fait, c'est intéressant, j'ai vu une émission, j'ai écouté les nouvelles l'autre jour, ils ont fait une étude. Ils ont regardé qu'est-ce qu'une femme à la maison va faire. Toutes les tâches que les responsables vont faire pour cuisiner, pour faire les devoirs, pour des fois qu'elle fait le ménage, elle aide avec, elle devient même un conseiller, elle fait tout, émotionnel, physique, toutes les tâches. Donc quelqu'un a dit, bon, si une femme était payée pour cela, c'était, je pense, qu'elle devrait gagner 120 000 $ par année. Minimum, c'est ça. Ça vaut 120 000 par année si elle était vraiment payée pour qu'est-ce qu'elle fait. Ça vaut 120 000 par année. C'est pas pire, hein? Toutes les madames vont dire, OK, vous avez entendu ça? Non. Messieurs, vous allez... J'ai des gens qui me regardent. Fais attention. Non. C'est pas vrai. Je plaisante. Mais qu'est-ce qu'on voit, c'est que les femmes, ils ont une valeur aux yeux de Dieu. Et elle devrait avoir une valeur élevée à nos yeux aussi. Une femme, c'est un don de Dieu, c'est une création de Dieu. Et qu'est-ce qu'on voit en Genèse 1, 27? Voici le verset que je veux voir. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il les créa hommes et femmes. Donc, qu'est-ce que je vois? Parce que je veux vraiment vous faire comprendre une chose. C'est que trop souvent, on parle de la création de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image. Mais la Bible ne dit pas que Dieu a créé juste l'homme dans le sens le mâle à son image. Dieu a créé la race humaine à son image. L'homme et la femme sont tous les deux l'image de Dieu. Il y a des personnes qui ont de la difficulté avec cela. Parce que dans leur perception, Dieu est masculin. Mais là, je veux juste faire attention. Je suis pas en train de dire que Dieu est un déesse, comme quelques personnes vont dire, qui vont pousser les choses à l'extrême. Mais qu'est-ce que je veux vous montrer aujourd'hui? C'est que même si Dieu est notre Père, et toutes les qualités masculines viennent de Dieu. Vous me suivez? Parce que, laisse-moi vous dire, nous avons les qualités aussi, mesdames, n'est-ce pas? Que vous n'avez pas. Comme vous avez des qualités que nous n'avons pas. C'est pourquoi on se complète, on est un complément l'un pour l'autre. Mais qu'est-ce qu'on voit, c'est que même si Dieu est notre Père, les qualités maternelles que nous apprécions chez la femme reflètent aussi l'image de Dieu. Et il y a des hommes machos qui ont de la difficulté avec ça. Parce qu'ils ne peuvent pas accepter que Dieu peut avoir les qualités maternelles. Mais juste pour une minute, il ne faut pas oublier une chose. On ne parle pas du sexe ici. Dans le royaume de Dieu, la Bible est claire. Il n'y a ni juif, n'est-ce pas? Ni grec, ni homme, ni femme. Mais nous sommes tous un en Jésus-Christ. Donc, je ne suis pas en train de dire que Dieu est une femme. Ne mettez pas les choses dans ma bouche, là. Dieu est Dieu. Mais toutes les qualités masculines qu'on trouve dans les hommes viennent de Dieu. Mais toutes les qualités maternelles qu'on trouve et qu'on apprécie chez les femmes, ça vient de Dieu aussi. Et l'un n'est pas mieux que l'autre. En fait, il y a des personnes qui ont dit, mais dans le fond, quand Dieu a créé Adam et Ève, et je ne suis pas d'accord avec ça non plus, ils disent, mais Dieu, il pratiquait avec Adam, il a perfectionné son œuvre avec Ève. Non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Dieu avait un but. Il savait qu'il avait besoin. Il a créé l'homme et la femme. En fait, quand il a formé de la terre le premier homme, Adam, il a soufflé dans ses narines le souffle de vie. Et plus tard, il a fait endormir Adam, il a enlevé une côte, et de la côte, il a formé la femme. Donc, on voit que les deux contiennent les caractéristiques de Dieu. Et aujourd'hui, je voulais vous dire une bonne chose, c'est que même si vous avez eu, comme on dit, par rapport à votre père, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à comprendre et à connaître Dieu, parce que quand on dit que Dieu est le Père céleste, pour eux, c'est négatif, parce que leur Père terrestre n'était pas un bon exemple. Donc, ils ont de la difficulté à accepter cela. Mais laisse-moi vous dire, c'est la même chose si votre mère terrestre n'était pas un bon exemple. Si elle n'était pas capable de combler vos besoins, j'ai une bonne nouvelle. De la même façon que vous pouvez avoir une bonne relation avec le Père céleste, même si la relation terrestre était comme ci, comme ça, ou même pire, de la même façon, vous pouvez avoir une relation avec Dieu qui va combler tous les besoins maternels que vous aviez aussi. Encore, mettez pas les mots dans ma bouche. Dieu n'est pas une femme, OK? Mais Dieu n'est pas un homme non plus, la Bible dit. Dieu est esprit. Il faut l'adorer en esprit et en vérité. Et Dieu est tellement, tellement grand. Dieu est tellement, tellement bon que toutes les bonnes qualités masculines et toutes les bonnes qualités féminines qu'on trouve dans la race humaine, toutes viennent de lui. Amen. Regardons, il y a des versets que je veux partager avec vous aujourd'hui là-dessus. Matthieu chapitre 23, verset 37. Jésus qui parle. Et même Jésus, savez-vous quoi, monsieur, que même si les caractéristiques dont nous allons parler sont surtout évidentes chez la femme, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas expérimenter ces qualités ou même développer ces qualités. Jésus le fait, regarde ici, il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme quoi? Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Donc on voit Jésus qui dit, ah, comme une poule, comme une mère poule, hein? Mais dans le bon sens. c'est pour vraiment prendre soin de ses poussins. Jésus, il a démontré cette caractéristique aussi. Est-ce que je suis en train de dire que Jésus était féminin? Laisse-moi vous dire, Jésus était un homme pour les hommes. Vous êtes d'accord avec cela? Mais regarde, il a quand même une tendresse dans son cœur. Je pense que c'est là où on a besoin de trouver l'équilibre entre l'affaire et puis la douceur aussi de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7. Regardons qu'est-ce que les apôtres, et vous êtes d'accord que l'apôtre Paul, c'était un gars assez tough, vous êtes d'accord? Il s'est fait lapider, il s'est fait battu, il était en prison, naufragé, c'est un gars tough. Mais regarde qu'est-ce qu'il dit. Il n'est pas trop macho pour démontrer les qualités qui viennent de Dieu, que nous pouvons dire sont d'habitude associés avec la femme. Regardez ici, certes, en tant qu'ambassadeur de Christ, nous aurions pu en revendiquer, nous pouvions nous présenter à vous comme des personnages importants, vous imposer notre autorité et l'appuyer de tout notre poids d'apôtre de Christ. Combien de vous, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont cette image de Dieu, que Dieu, c'est le juge autoritaire, il n'est que tough. Dieu est tough. Dieu est redoutable. Vous êtes d'accord? Dieu est digne de notre révérence et notre crainte dans ce sens-là. Mais regarde bien, Paul a dit, au contraire, nous avons été pleins de quoi? Pleins de douceur au milieu de vous. Nous vous avons traité avec quoi? Tendresse, comme une mère aimante soigne les enfants qu'elle nourrit. C'est quelque chose, n'est-ce pas? Donc, en quelque part, ça devrait donner une certaine liberté. Il y a des hommes, là je parle aux hommes juste pour une minute, il y a des hommes qui pensent que si je démontre de l'affection, que ce soit à mon épouse, si je donne un câlin à mon épouse, ou si je donne un câlin à un de mes enfants, ou si je dis des paroles qui sont douces et tendres, que, en quelque part, je vais cesser d'être un vrai homme. Il y a beaucoup d'hommes comme ça. Ils pensent que si je suis un vrai homme, c'est toujours dur. On peut être tough. On peut être prêt à recevoir les coups comme Paul a reçu les coups et être lapidé et quand même se tenir debout et dire, bon, j'y vais, je continue. Ils m'ont pas eu cette fois-ci. Mais en même temps, être tendre comme une mère aimante qui prend soin des enfants qu'elle nourrit. Donc, c'est ça la beauté. On voit ça avec Jésus. Jésus qui est capable de faire un fouet puis de chasser les échangeurs de monnaie, n'est-ce pas, et renverser les tables. Laisse-moi vous dire, il n'était pas un petit pindi qui, oh, ben, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez serrer vos affaires et partir? Non, c'était, allez-y, va-t'en. Mais en même temps, il est capable de recevoir les enfants et les toucher, les bénir. Amen. Donc, on voit ces caractéristiques. Pour avoir une connaissance équilibrée de Dieu, il ne faut pas juste voir le côté sévère de Dieu, il faut voir aussi la douceur de Dieu, la tendresse de Dieu, que Dieu prend soin de nous comme une mère poule prend soin de ses enfants. Amen. De la bonne façon. Ésaïe 66, verset 12. Regardons ceci. J'aime tellement ce verset. Encore, c'est Dieu, c'est le grand Je suis qui parle. Le grand Je suis dit, car ainsi parle l'Éternel. Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez quoi? Allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. C'est Dieu qui parle. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. C'est Dieu qui parle? De nous mettre sur les genoux, de nous caresser? Oui, c'est Dieu qui parle. Ça, c'est une bonne qualité. Et ça, c'est les qualités qu'on voit plus souvent chez la femme, mais ces qualités viennent de Dieu. Donc, c'est une chose qu'on doit honorer, apprécier, respecter, cultiver et encourager, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire avec cela? Qu'est-ce qu'on doit faire? Si c'est vrai que ces caractéristiques ou ces qualités maternelles viennent de Dieu, qu'est-ce que nous avons besoin de faire? Je vais juste brièvement aujourd'hui vous donner quelques petits conseils, 5 en fait. Numéro 1, recevez sa provision. Comme une mère veut prendre soin de ses enfants, c'est la maman souvent qui, quand on parle des oiseaux, qui va revenir au nid avec les choses pour le déjeuner, n'est-ce pas? Pour que les petits oiseaux puissent manger. Une maman a toujours à cœur de donner de la nourriture à ses enfants. Il y a certaines mères, on a des images de certaines personnes dans les films, de certaines mamans. Ah, venez, mangez, mangez. Ah, vous n'avez pas eu assez. Hein? Je connais des personnes, ils disent que leur mère est comme ça. Ils arrivent à la maison et dès qu'ils arrivent, ils sortent la nourriture. Hé, hey, mangez, mangez. On avait notre propriétaire en France, elle était comme ça. Quand on allait chez elle, elle sortait la nourriture et donc, mangez, mangez. On n'avait pas vraiment faim, mais on continuait. Si elle ouvrait une petite boîte de biscuits, il fallait terminer la boîte parce que demain, ça va être pourri. Oh, mangez, mangez. Oh, vous êtes un peu mince, là. Ah, mangez. Mais ça, c'est le cœur d'une maman qui veut prendre soin des gens et de prendre soin de ses enfants. Mais Dieu veut prendre soin de nous comme ça. Et j'aime ça parce que David a dit, j'ai été jeune et j'ai veillé. Je n'ai pas vu le juste abandonner, ni sa postérité mendiant son pain. Gloire à Dieu. Et Philippiens 4, 19, mais mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc, il y a une provision abondante que Dieu veut nous donner. Donc, il faut le recevoir. Numéro 2, reposez-vous dans sa protection. Laissez-moi vous dire, les mamans sont souvent douces, mais les mamans veulent protéger les bébés aussi, n'est-ce pas? Regardons ces versets, Ésaïe 31, verset 5. « Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. » C'est dans le cœur des mères, souvent. Moi, je sais, ma mère, moi, j'ai grandi avec ma mère. J'ai beaucoup d'appréciation pour elle. Mon père est parti quand j'avais 9 ans. Et ma mère a élevé moi et mon frère seul. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup d'honneur et de respect pour elle parce que je sais qu'elle a fait des efforts extraordinaires pour pouvoir travailler et prendre soin de nous. Mais laisse-moi vous dire une chose. Moi, je connais ma mère. Elle disait souvent que la nuit, elle faisait des rêves et des songes, et elle dit, c'est drôle, mais presque chaque nuit, quand je rêve, je suis en train de sauver un bébé. Il y a un enfant qui est en trouble, qui est en difficulté, en danger, et j'arrive toujours pour sauver le bébé. Donc, il y a des raisons pour cela, bien entendu. Mais quand même, qu'est-ce qu'on voit? C'est dans le cœur des mères. Les mères veulent protéger, sauver, épargner, n'est-ce pas? Donc, regardons bien ceci. Osée 13, 8. Les mamans sont douces, sauf quand on touche à leurs petits. Et là, tout change. Regarde qu'est-ce que Dieu a dit. Je les attaquerai comme une ours à qui l'on a enlevé ses petits. Et je déchirerai l'enveloppe de leur cœur. Wouh! OK? Je les dévorerai comme une lionne. Les bêtes des champs les mettront en pièces. Écoute, dérange pas les enfants de maman. Et notre bonne nouvelle, dérange pas les enfants de Dieu. Dérange pas les enfants de Dieu. Touche pas à ces petits, parce qu'il est comme une ours qui s'est fait voler de ses petits. Amen. Ça devrait vous donner une certaine satisfaction de savoir que mon Père Céleste, il est aussi comme cet ours qui est prêt à me protéger et même déchirer l'enveloppe du cœur de mes ennemis. Woo! Numéro 3. Jouissez de son affection. Les mamans, ils ont de l'affection pour les bébés. Oh, il est mignon! Ésaïe 65, verset 19. « Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. » Regardons ceci, Ésaïe 49. J'aime celui-là. « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. » Dieu est en train de dire que oui, des fois, même ça arrive des fois sur la planète Terre que les mères terrestres vont oublier, mais moi, j'oublierai jamais. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Il parle de Jérusalem, mais laisse-moi vous dire que le peuple de Dieu est gravé sur la main de Dieu. Il nous voit. Combien de fois, hein? Les mamans, les grands-mamans, ça ne prend pas longtemps que la conversation vire et... Oh, est-ce que je t'ai montré les photos de mes enfants? Quelqu'un ose poser la question. Est-ce que tu as par chance une photo de tes enfants? Je pense que peut-être j'ai une photo quelque part. Et comme je dis, hein, elle sort 120 photos et... Je m'excuse, j'aurais pas dû poser la question. Comme Psaume 17:8 dit, garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. Donc, savez-vous quoi? Si les mamans sont comme ça, savez-vous quoi? C'est parce que Dieu est comme ça. Dans le portefeuille de Dieu, s'il avait un portefeuille, il aurait ta photo. Il aimerait montrer ça à tout le monde. Ça, c'est mon fils. Il grandit, hein? Il pousse. Ça, c'est ma fille. Elle est belle, n'est-ce pas? Numéro 4. Apprenez de sa consolation. Dieu est un Dieu de consolation et il veut qu'on apprenne des choses quand il nous console. Quand une maman va consoler ses enfants, Dieu veut nous consoler. 2 Corinthiens 1, 3 et 4 dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute, quoi? Consolation. » Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. J'aime ça. Quand j'ai mal, je pense quand j'étais petit, j'ai mal, je me suis blessé. Normalement, pas toujours, mais souvent, les enfants vont courir voir maman, même avant de voir papa. Pas toujours. Ça dépend le cas. Ça dépend le père aussi. Ça dépend la mère. Ça dépend la femme. Mais souvent, on est porté à aller voir maman parce que maman a la touche, n'est-ce pas? Elle est capable, avec tendresse et gentillesse, de soigner le bobo comme il faut. Tandis que papa, des fois, c'est un plus... Ah, c'est correct! On va mettre un petit pansement. Vas-y, jouez encore. Sois tough! Bon, non, je sais de quoi je parle des fois. Hein? Où est-ce qu'on était? Bon, quelques autres versets. Jean 14, 26. On sait que Dieu est un consolateur. Il a même donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'appelle notre consolateur. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. N'est-ce pas bon de savoir que Dieu est un consolateur? Le Saint-Esprit est là. Romains 15, 4. Or, tout ce qui était écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la science et par la consolation que donnent les quoi? Les Écritures, nous possédions l'espérance. Voyez-vous, comme dans le naturel, vous étiez porté à aller voir maman. Maman, j'ai mal. Savez-vous quoi? Vous pouvez courir à la parole de Dieu. Seigneur, j'ai mal aujourd'hui. Et il est là pour nous consoler avec sa parole. N'est-ce pas une bonne nouvelle? On est toujours, toujours capable d'avoir la consolation parce que Dieu est toujours là. Proverbe 6, 20 à 22. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cou. Attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront. Soulignez cette phrase, ils te parleront à ton réveil. Je pense qu'on devrait être tellement branchés avec Dieu, tellement remplis des Écritures, que la Bible et la parole de Dieu nous parlent. Comme il y a des choses que maman nous a dit, on s'en souvient aujourd'hui. Moi, je pourrais sortir beaucoup, beaucoup de phrases de ma mère. Quand tu reçois des citrons dans la vie, when life gives you lemons, make lemonade. Quand tu reçois les citrons, fais de limonade. Ça, c'est juste. Moi, j'ai plein de choses que ma mère a toujours dit. Bon. Amen. Et ça me parle. Mais savez-vous quoi? Que Dieu veut nous parler comme ça. Il veut que ces choses soient tellement enracinées en nous que ça nous parle. La journée longue. Puis numéro 5, ne rejetez pas son sacrifice. Il y a une chose que je sais, il y a quelque chose dans le cœur de beaucoup des mères qui fait en sorte qu'ils sont portés à faire des grands sacrifices pour épargner, pour délivrer, pour protéger, pour faire réussir leurs enfants. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Peut-être vous avez eu la bénédiction d'avoir une mère comme ça, peut-être pas. Mais juste sachez que cette caractéristique de vouloir faire des sacrifices pour son enfant, ça vient de Dieu. Moi, je sais que personnellement, je sais, ma mère a fait énormément de sacrifices pour moi et pour mon frère. Juste au niveau de son travail, elle était obligée de travailler dur et fort pour payer les factures. Elle a fait tout qu'elle pouvait faire. Moi, j'ai grandi en sachant que ma mère, elle était prête à mourir pour moi si nécessaire. J'ai eu cette bénédiction. Je n'ai pas eu la même chose avec mon père, même si je l'aime de tout mon cœur. Mais avec ma mère, au moins, j'avais vraiment une bénédiction de savoir, c'était clair, évident, qu'elle faisait tout. Elle était prête à tout faire. Combien de mamans, le bébé tombe malade, et on entend souvent la mère qui va dire, « Hey, j'aurais aimé mieux que ça soit moi. Je déteste voir mon bébé souffrir, j'aurais aimé moi-même souffrir à sa place. » Ça vient d'où? Ça vient de Dieu. Parce que c'est exactement ce qu'il a fait pour nous, n'est-ce pas? Regardons juste quelques versets de la parole. Encore, j'ai fait mention de ce que les apôtres ont dit en Thessaloniciens 2:7. Mais il continue, il dit, « Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'Évangile de Dieu, mais encore nos propres vies. Tant vous nous étiez devenus chers. » Donc on voit que même Paul et les apôtres, ils étaient prêts à donner leur vie pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avance. Regarde bien, Jean 15, 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et on voit les mères, les mamans sont, moi je dirais, plus avancées dans ce domaine que les pères souvent. Est-ce qu'on peut dire amen? Pas toujours, mais c'est souvent le cas. Ésaïe 53 nous montre le pourquoi, par exemple. Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Toutes ces qualités viennent de lui. Et comme on ne devrait pas prendre pour acquis le sacrifice de maman, aujourd'hui, je vous lance un défi. Si vous êtes capable, parce que ce n'est pas tout le monde qui est en contact avec sa mère, il y a plusieurs de ces mamans qui sont déjà parties, il y en a qui n'ont jamais connu leur mère. Et je suis très sensible à cela. Et je suis là pour vous dire la bonne nouvelle, c'est que si vous avez une bonne expérience avec votre mère, soyez reconnaissant, prenez le téléphone, faites quelque chose pour elle aujourd'hui, remerciez du fond de ton cœur, ta mère, pour tout ce qu'elle a fait. Si tu n'as pas eu cette bénédiction dans ta vie, je t'invite à tourner les yeux sur le Seigneur et de savoir que Dieu Tout-Puissant veut prendre soin de toi. Amen. Et comme on ne veut pas prendre pour acquis tous les sacrifices de notre mère terrestre, on ne devrait jamais prendre pour acquis les sacrifices que Dieu a fait pour nous. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Savez-vous qu'est-ce que Jésus a fait pour vous? Savez-vous le sacrifice qu'il a fait? Comme la maman qui dit, j'aurais aimé mieux que ce soit moi cloué au lit. Jésus savait que parce que le monde entier est sous la puissance du péché, que tout le monde, sans exception, est venu dans ce monde pécheur. Tous ont péché, sont privés de la grâce de Dieu. Jésus savait que nous avons tous mérité d'être cloués à une croix. On a tous mérité de brûler pour l'éternité à l'enfer. On a tous mérité cela, mais Dieu, dans son amour, a dit non, je veux pas. Je veux pas. J'aimerais mieux que ça soit moi qui soit cloué à la croix. Il n'a pas juste dit non plus, il a fait. Je veux juste vous inviter ce matin, parce que je ne peux pas penser à une meilleure manière de terminer une réunion pour la fête des mères aujourd'hui que de donner une occasion aux gens qui sont ici présents de connaître le Dieu qui est si merveilleux, si tendre, si doux, si plein d'affection. Et si ce matin vous êtes là et dans votre cœur, vous n'avez pas encore l'assurance de connaître ce Dieu si merveilleux, je vais vous donner l'occasion de le connaître avant de partir. Mais regardons deux autres versets. Ésaïe 53, 5 et 6. Mais il, on parle de Jésus, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Regardez-moi dans les yeux ce matin. Savez-vous quoi? Qu'à chaque fois que Jésus a reçu un coup, à chaque fois qu'il était battu, à chaque fois que son corps était percé, que son âme était angoissée, c'était à cause de moi et de vous et de nous. C'était mon péché qui a cloué le Seigneur à la croix. C'est moi qui a mérité cela. Et vous l'avez mérité aussi. Est-ce que vous êtes en train de dire que je ne suis pas une bonne personne? Je suis en train de vous dire qu'il n'y a personne ici qui est assez bon pour aller au ciel. Personne. Regardons le dernier verset qui est dans vos notes et ici sur l'écran. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Comme une mère qui va tout donner pour se sacrifier, Jésus s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Qui sont les coupables? Moi, j'étais compté parmi les coupables. Les deux mains dans l'air, je mettrai mes pieds dans l'air aussi. Donc, je vous invite, et si Jean-Charles, si tu veux venir au clavier ce matin, juste avant de terminer, c'est le moment le plus important de la réunion ce matin. Donc, je vous invite, si c'est possible, juste rester calme, tranquille, pas bouger trop, parce que je veux vraiment que tout le monde ici présent ait la chance d'entendre ce que je vais dire. Je veux que vous commencez maintenant juste à sonder votre cœur. Soyez honnête avec vous-même. Moi, je vous aime parce que Dieu a mis dans mon cœur un amour pour vous. Mais l'amour de Dieu pour vous, c'est quelque chose qui est si grand, si merveilleux. Mais j'aimerais que vous posiez la question, avez-vous reçu personnellement le sacrifice de Jésus pour vos péchés? Avez-vous reconnu, premièrement, que vous êtes pécheur, que vous avez besoin d'un sauveur et que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même? Posez-vous la question, en sortant de la bâtisse aujourd'hui, si tu meurs, ton cœur s'arrête, quelque chose se passe et tu es mort. Posez-vous la question, soyez honnête avec vous-même ce matin. Est-ce que vous savez sans aucune doute que vous irez au ciel et que vous avez une place réservée pour vous personnellement au ciel? Avez-vous l'assurance que votre nom, et on a parlé de Dieu et il a sûrement une photo de tous ses enfants, je plaisantais un peu, mais ce qu'on sait pour vrai, ce que la Bible dit, c'est pas moi qui l'invente, la Bible dit qu'il y a un livre de vie au ciel, que Dieu a un livre, et dans ce livre, les noms de tous ceux et celles qui ont accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur sont écrits dans ce livre. Et tous ceux qui sont trouvés dans ce livre, ils ont la vie éternelle, ils vont passer l'éternité au ciel. Mais si, après la mort, on se trouve devant Dieu et notre nom n'est pas dans le livre, la Bible déclare que Tout le monde qui n'est pas dans le livre doit aller à l'enfer. Et ce n'est pas parce que Dieu veut les envoyer à l'enfer. En fait, l'enfer a été créé pour Satan et ses anges. Mais parce que l'homme a désobéi à Dieu, les êtres humains sont devenus la propriété de Satan. Et tout le monde, quand Satan va être jeté dans les temps de feu, tous ceux qui ne connaissent pas Jésus vont aller aussi. Et je vous aime assez aujourd'hui pour vous donner la bonne nouvelle. C'est que Jésus est mort pour vous. Jésus est le sacrifice. Et il vous offre la vie éternelle. Donc, dans une minute, je vais vous poser la question. Voulez-vous accepter Jésus? Encore, si votre cœur s'arrête, est-ce que vous êtes prêt à rencontrer Dieu? Peut-être tu dirais, mais je pense que j'irai au ciel. Laisse-moi vous dire que la Bible ne dit pas que penser que vous êtes droit avec Dieu ou en règle avec Dieu va vous amener au ciel. C'est pas la pensée positive qui peut vous amener là. Les gens qui vont dire, mais moi, j'ai jamais fait trop de mal dans ma vie, j'ai jamais tué personne, j'ai jamais fait des grandes, grosses affaires, j'ai essayé de suivre les 10 commandements. Laisse-moi vous dire que j'ai une Bible ici, et nulle part dans la Bible, parce que c'est marqué que ceux qui ont fait des bonnes œuvres vont aller au ciel. Au contraire, la Bible est claire que personne n'est capable de le faire soi-même. On a besoin d'un sauveur. Peut-être vous dites, mais je prie régulièrement. Je crois en Dieu. La Bible dit que même le diable croit que Dieu existe, mais il n'est pas sauvé. La Bible dit qu'il y a des personnes dans toutes sortes de religions qui prient, mais ça ne fait pas d'eux les enfants de Dieu. Pour devenir un enfant de Dieu, regardez-moi droit dans les yeux pour une minute parce que je vous aime. Pour devenir enfant de Dieu, il faut connaître le seul vrai Dieu et celui qui a envoyé Jésus-Christ. Jésus a dit ceci, voici la chose bien importante. Si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père qui est au ciel. Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père qui est au ciel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être chrétien? Être chrétien, c'est de croire de tout son cœur que Jésus est le Fils de Dieu et que Jésus a donné sa vie à la croix et que Jésus est ressuscité des morts. Et être chrétien, c'est de confesser avec sa bouche, avec ta bouche. Maman ne peut pas le faire pour toi. Ton frère, ton père, personne ne peut le faire pour toi. Il faut que tu confesses avec ta bouche que Jésus est ton Seigneur. Un Seigneur, c'est un maître. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, je suis Jésus. Je le suis. Quand il dit à faire quelque chose, je le fais, je marche en obéissant, je tourne mon dos au péché, je vais vivre pour Jésus. Posez-vous la question. Le cœur s'arrête. Est-ce que vous êtes prêt? Sinon, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, Jésus est en sa main. Et aujourd'hui, Jésus dit, venez à moi. Et aujourd'hui, avec tous les yeux qui sont ouverts, parce qu'ici, tout le monde aime Jésus. Et Jésus a dit que si tu as honte de moi, dans cette génération, j'aurai honte de toi. Aujourd'hui, je vais vous donner une occasion de recevoir Jésus, de dire, oui, je veux être enfant de Dieu, je veux donner ma vie à Jésus, je n'ai pas honte de lui, et je veux recevoir son sacrifice dans ma vie, et je veux naître de nouveau, comme Jésus dit. Je veux passer de la mort à la vie. Donc, ce matin, s'il y a quelqu'un ici, pensez pas aux autres. Ce n'est pas cette église qui peut vous sauver. C'est bon, c'est important d'aller à l'église, mais ce n'est pas l'église qui vous sauve. Je ne vous invite pas à devenir membre de la vie comblée, forcément, si vous pouvez. Mais il y a d'autres églises, ce n'est pas ça. Je vous invite ce matin, tout simplement, je fais comme la Bible dit. Je vous supplie, au nom de Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. Donc aujourd'hui, je vais taper ma main. Et ça va être votre occasion. Quand je tape ma main la prochaine fois, si vous êtes ici et vous n'avez pas encore cette assurance d'avoir la vie éternelle, dès que je tape ma main, je veux que tu lèves ta main vite, tout de suite, pour dire oui, je veux donner ma vie à Jésus. Et aujourd'hui, il y a des gens qui vont venir à Christ. Vous savez, dernièrement, on a eu beaucoup de personnes qui ont pris cette décision. Mais il faut que chacun de nous prenne la décision personnellement. C'est pas ton père, c'est pas ton voisin, c'est pas ta mère, c'est vous. Jésus vous offre la vie. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin que vous avez besoin de partir d'ici, sachant que vous êtes sauvé de vos péchés, que vous avez une place réservée pour vous au ciel? Je vais taper ma main sur trois. Et si vous avez besoin de donner votre vie à Jésus, levez la main vite comme ça. Si tu confesses Jésus devant les hommes, tu confesseras devant le Père. Un, deux, trois. Tu veux recevoir Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je vais voir les mains parce que je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de le faire. Moi, je vais prendre juste une minute de plus. C'est votre occasion. Il y a sûrement des personnes ce matin qui ont besoin de donner leur vie à Jésus. Et je vous aime assez pour dire, là, vous avez entendu ça. Mais imaginez si c'était le dernier battement de votre cœur. Est-ce que vous êtes prêt? Vous ne savez pas si vous avez une autre occasion. Vous ne savez pas si vous allez pouvoir, dans le futur, recevoir Christ. Aujourd'hui, c'est peut-être la dernière journée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirait, oui, j'ai besoin de connaître Jésus? Moi, j'attends juste une minute de plus. Et puis, parce que je ne suis pas sûr, je ne sais pas, Dieu seul sait. Peut-être tout le monde dans cette salle connaît déjà le Seigneur Jésus. Peut-être tout le monde est déjà sauvé. Mais peut-être il y a encore une personne qui a besoin de dire, oui, Jésus, je crois en toi. Je veux donner ma vie à toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Levez la main. Parce que qu'est-ce que je vois? Il y a des personnes qui pensent, mais qu'est-ce que les autres vont penser? Si je fais cela, il y a des gens qui pensent que je suis déjà chrétien. Si je fais cela, je vais être embarrassé. Mais ce n'est pas qu'est-ce que les autres pensent qui compte. La seule chose qui compte, c'est qu'est-ce que Jésus pense. N'aie pas honte de Jésus ce matin. Donne ton cœur à lui. Et moi, j'ai la conviction qu'il y a au moins une personne ce matin qui a besoin de répondre. J'ai vraiment dans mon cœur qu'il y a quelqu'un ce matin qui a besoin de donner sa vie à Jésus, d'accepter Jésus-Christ. Et on ne sait pas si vous allez avoir une autre occasion. Donc aujourd'hui, c'est le jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous levez la main. J'attends. Alléluia. Je pense à ce que l'apôtre Paul a dit. 2 Corinthiens chapitre 5. Il a dit, comme les ambassadeurs pour Christ, nous vous supplions au nom de Jésus. On voit dans son cœur, nous vous supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Est-ce que vos cœurs sont nets, clairs ce matin? Je vois quelqu'un. Est-ce que tu voulais donner ta vie au Seigneur? Alléluia. Si oui, est-ce que tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus ce matin? Alléluia. J'ai vu une main qui commençait là. Mais c'est correct. Combien de vous serez heureux de voir quelqu'un donner sa vie à Jésus ce matin? Ça serait le fun, n'est-ce pas? Je ne veux pas embarrasser les gens, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de lever la main ce matin? Je regarde nulle part. Mais fais-le. On va prier pour les personnes. Amen. Seigneur, au nom de Jésus, je prie que ce matin, tu puisses parler au cœur de la personne. Parce que Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Tu veux les gens qui te connaissent pour vrai, Seigneur. Tu veux les gens qui n'ont pas honte de dire, oui, je suis chrétien. Oui, je veux donner ma vie à toi. Oui, Seigneur, j'ai pas honte de toi. Oui, Seigneur, je m'affiche de qu'est-ce que les autres pensent ou qu'est-ce que les autres vont dire. J'ai à cœur, Seigneur, de donner ma vie à toi. Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu donnes le courage à tous ceux et celles qui ont besoin de t'accepter aujourd'hui, afin qu'ils puissent le faire. Au nom de Jésus. Tout le monde est d'accord avec ça, dit? Amen. Dernière chance, est-ce que quelqu'un qui dit, oui, j'ai besoin de le faire, lève la main, tout en haut. C'est pas grave. Est-ce que vous me comprenez ce matin, mon cœur? J'ai tellement, tellement la conviction dans mon esprit que Jésus revient bientôt. Et j'ai tellement dans mon cœur que la moisson est grande. Et qu'il y a des âmes qui vont aller à l'enfer si je ne fais pas ma part, si nous ne faisons pas notre part. C'est sérieux, cette chose. C'est pourquoi je prends, même si c'est 10 minutes à la fin de la réunion, pour donner la chance aux gens. On a eu 34 personnes dans les dernières 2 semaines qui ont dit oui à Jésus. 34 personnes. C'est quelque chose, hein? On a eu dans toute l'année 2006, on a eu juste 26 personnes, mais dans deux semaines, on a eu 34. Mais ça, c'est juste le commencement. Et donc, je vous invite, l'Église, nous sommes dans cette œuvre ensemble. Je crois que Dieu veut ajouter des milliers d'âmes à l'Église. Pas juste la nôtre, mais dans les autres églises aussi. Donc, ce n'est pas juste l'évangélisation en masse, mais c'est l'évangélisation personnelle en masse. C'est chacun de nous, on amène nos amis, on amène les personnes qui sont chères à nous, on les amène au Seigneur, on les amène à l'Église où ils peuvent entendre le message. Donc, je veux que vous priez pour moi aussi, parce que moi, je vous donne un engagement. Si vous amenez des personnes à l'Église le dimanche matin, je vais leur donner une chance de donner leur vie au Seigneur Jésus. Donc, c'est un travail ensemble.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.